Donc on était à Josué chapitre 20 et 21. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a eu le partage du territoire d'Israël, d'accord, qui a été fait. Et on arrive maintenant à quelque chose d'un petit peu particulier. C'est l'établissement des villes refuges, d'accord? Au chapitre 20. Il y a la répartition qui commence. Ensuite, l'habitation des Lévites au milieu du peuple, et particulièrement dans ces villes-là, ces villes-refuges. Et puis, le chapitre 21 conclut avec le fait que Dieu introduit, après tout ce temps de bataille, le repos pour le peuple d'Israël, et il rappelle que ses promesses s'accomplissent toujours. On va lire un petit bout. Alors, on va pas lire les deux chapitres, mais on va lire des petits extraits. Donc, on peut lire Josué 20, versets 1 à 6. Si on peut mettre la slide, c'est affiché. L'Éternel parla à Josué et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. D'accord? Donc là, c'est le cas d'un péché involontaire, grave, meurtre, et Dieu a prévu quelque chose où on peut se réfugier. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. D'accord? Le vengeur du sang, c'est en fait les autorités hein, du peuple qui sont mandatées pour appliquer la loi de Moïse. Et la loi de Moïse dit, en cas de meurtre, eh bien, d'accord? C'est la même chose qui vous arrive. Donc si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Les villes de refuge constituaient pour le peuple d'Israël une ressource merveilleuse de la grâce de Dieu quand ils avaient péché, et là de manière involontaire. Le péché du peuple d'Israël était régi, donc comme je viens de le dire, par de nombreuses lois qui sont dans la loi de Moïse, la loi mosaïque, et dont certaines pouvaient entraîner en réponse la mort. D'accord? Il y a un certain nombre d'actes qui entraînaient en représailles, eh bien, d'être tués. Et les villes refuges étaient placées sur des montagnes. D'accord? Elles n'étaient pas cachées, elles étaient placées en hauteur, afin qu'elle soit vue de loin. Et celui qui avait commis quelque chose de grave, comme ici un homicide par accident, pouvait courir s'y réfugier. Elles étaient disposées dans le pays de manière, vous les voyez là, il y en a six, de manière à ce que, peu importe où l'on soit en Israël, on n'ait pas plus de 50 km à faire pour pouvoir rejoindre une de ces villes. Donc 50 km à l'époque, à cheval, c'était 2 à 3 jours. Voilà. À pied, c'était probablement plus, pas loin d'une semaine. Voilà, donc vous avez les six villes, Kadesh ou Kedes, tout en haut, Sichem, c'est dur à dire, Shechem, Hébron, Bézer, Ramoth et Golan. Il y en avait trois, pardon, si on remet la diapo, à gauche du Jourdain, à l'est du Jourdain, d'accord? Et puis trois à droite, une fois qu'on a passé le Jourdain, là, que vous voyez au milieu, juste avant le pays de Gad. Voilà, trois de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a lu ces chapitres, vous allez me dire, mais c'est bien, c'est super, on voit quelque part une manifestation de la grâce de Dieu pour les Hébreux à cette époque-là, mais en quoi est-ce que ça peut nous concerner? Alors oui, parfois il y a des textes où on se dit c'est super de les lire, mais je vais pas m'y attarder. Je sais pas si ça vous arrive. Parfois ça m'arrive. Eh bien, je veux vous encourager à développer un réflexe. D'accord? On en a parlé plusieurs fois et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi à ceux. Bon, il y a une formation qui s'appelle CFK et je leur dis toujours, cherchez où est Charlie. Non, c'est pas ça. Mais cherchons où est Jésus dans le texte. D'accord? Parce que toute la parole de Dieu parle de Jésus. D'accord? Pas simplement de manière occasionnelle, pas simplement dans sa finalité, d'accord? Mais dans chaque chapitre de la Bible, nous pouvons trouver Jésus-Christ. Amen. Et je peux vous garantir que si vous rentrez ça dans votre lecture de la Bible, ça va vous ouvrir la Bible, mais d'une manière que vous ne soupçonnez pas parfois. Donc, rappelons-nous que ce que Dieu a fait avec la nation d'Israël, il l'a fait pour préparer la venue de Jésus. Et donc, j'ai développé quatre points ce matin par rapport à cela. Et le premier point, c'est nous nous sommes enfuis et nous devons continuer de fuir. Souvent, dans les textes de l'Ancien Testament, il y a des textes du Nouveau Testament qui leur répondent et qui les éclairent, d'accord? Parce que Jésus est venu pour apporter la lumière à l'ombre des choses qui étaient, et donc l'ombre des choses qui étaient dans l'Ancien Testament. Et donc, on va lire Hébreux 6, 18 à 20. Afin que par deux, verset 18, par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît, nous ayons une ferme consolation, nous, donc il est parlé des chrétiens, qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée, pour saisir Jésus-Christ, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Alors, en quoi ce texte nous ouvre le passage de Josué 20? Eh bien, littéralement, en grec, le verbe s'enfuir, on pourrait le traduire par nous nous sommes enfuis vers un refuge. Ça inclut cette idée qu'on ne s'enfuit pas n'importe où, mais on s'enfuit pour aller à l'abri. Alors peut-être que certains parmi nous peuvent penser ce matin, mais moi je ne me suis jamais enfui. Je suis simplement venu à Christ. On m'a invité à venir à Christ et je suis venu à lui parce que j'avais rien à fuir. Eh bien, laissez-moi nous rappeler que c'est encore une bonne occasion ce matin pour se repentir. Parce que on va voir les textes du Nouveau Testament qui vont nous confirmer que, en fait, nous nous sommes bien enfuis. Et si nous ne l'avons pas fait, peut-être nous avons quelque chose à comprendre dans notre manière de vivre. Éphésiens 2 nous dit, versets 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc bien sûr il est parlé de Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, aïe. Nous tous aussi. Et Paul, C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il s'inclut avec ce nous. Nous étions de leur nombre, au cas où on n'aurait pas compris. Avec nous tous aussi, ça ne suffit pas. Il rajoute, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul est clair, nous tous aussi, nous marchions à la suite de Satan, vivant selon nos pensées, accomplissant les volontés de la chair. Et donc, nous avions à fuir quelqu'un, le vengeur du sang. Et ce vengeur du sang, c'était la colère de Dieu elle-même, qui devait de manière juste, juste, nous envoyer à la mort. Nous avions besoin de fuir et de trouver un lieu de refuge pour être protégés de la colère de Dieu à venir. Et nous avons trouvé refuge en celui dans lequel je peux être caché en totale sécurité, en Christ. Pour certains d'entre nous, nous marchions selon le mensonge. Pour d'autres, dans l'alcool. Pour certains, c'était la convoitise. Pour d'autres, c'était un caractère agressif. Pour certains, c'était laisser libre cours à une vie sexuellement libre. Adultère, fornication, succession de partenaires, etc. Pour d'autres, c'était de se cacher, au contraire, pour son propre plaisir, égoïsme, pornographie, etc. Je pense qu'on pourrait multiplier les exemples, mais ce n'est pas la peine. Nous étions tous coupables devant Dieu. Et comme dit Paul dans Romains 3, versets 9 à 12, « Car nous avons déjà prouvé que tous, encore une fois, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Waouh! Est-ce que c'était important d'avoir des villes refuges? Chacun d'entre nous s'est enfui de certains comportements. Amen. Et c'est une bonne nouvelle et un encouragement pour ceux qui luttent encore avec certaines choses dans leur vie qui sont difficiles. Sachez que chacun d'entre nous a dû s'enfuir de certains comportements qui étaient liés à la pensée du monde, à la pensée du diable, pour adopter cette nouvelle vie que Jésus nous propose selon la pensée de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Et je crois que le texte de ce matin, avec ses villes refuges, nous invite et nous encourage à continuer, d'accord, de fuir. On doit continuer de fuir les perversions de ce monde, fuir la séduction et les pensées du prince de ce monde, que l'on appelle le diable. En tant que chrétiens, nous sommes souvent soumis à la tentation. Est-ce qu'on réalise ça? Souvent. C'est ça que le texte biblique nous dit. On est soumis au péché. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire qu'il nous enveloppe si facilement. Waouh! Waouh! D'accord? Vivons les yeux ouverts. Même Paul donne ce conseil à un chrétien qui est juste prêt là pour devenir ancien et diriger une église. 2 Timothée 2, 22. Qu'est-ce qu'il lui dit? Fuis! sais pas si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, mais ça me fait penser à ce passage avec Gandalf. Fuyez, pauvre fou! Mais c'est ça! C'est ça! Fuis! Enfuis-toi! D'accord? Juste, j'insiste sur ce mot. C'est pas juste mets ça de côté. C'est prends tes jambes à ton cou et cours! Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Fuis le monde et réfugie-toi dans l'Église. C'est ça que nous dit ce texte. Peu importe où nous en sommes dans notre maturité chrétienne, nous avons tous à fuir le péché à un moment ou à un autre. Ne nous voilons pas la face, d'accord? Ne nous mentons pas à nous-mêmes et ne faisons pas Dieu menteur, comme dit Jean dans son épître. Mais prenons notre courage à deux mains et fuyons nous réfugier en Christ. Amen. Et dans l'Église. Paul encourage Timothée, reste avec ceux qui ont un cœur pur. Le diable rôde, cherchant la bonne occasion pour nous dévorer. C'est un bon rappel, excusez-moi, je le fais manière un peu à nous secouer, mais parfois on a besoin dans ce monde-là qui nous endort tout le temps par rapport au péché et qui nous fait croire qu'il y a des formes de péché qui sont super. Non! 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 Il n'y en a pas. D'accord? Et nous devons trouver refuge en Christ, dans sa sainteté et dans son amour. Amen. On va prier pour ça à la fin. Oh là là, est-ce qu'on peut arrêter l'horloge, s'il vous plaît? Deuxième point. Le pécheur est pardonné à la mort du souverain sacrificateur. Verset 6 dans Josué 20. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure en Hébreux 6, il est dit, voilà, à partir du verset 19, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme, donc l'espérance, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile, donc Jésus. Où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu quoi? Souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Ces chapitres 20 et 21 de Josué anticipaient déjà la venue du grand souverain sacrificateur, Jésus, qui par sa mort allait annuler l'acte de jugement qui était dressé contre nous. Amen. Parce que c'est ça, il devait rester dans cette ville refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et c'est cette mort-là qui annulait l'acte de condamnation contre eux. C'est juste la même chose avec nous. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour tout, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. On peut dire amen à ça. Hein? Enfin, moi, j'ai envie. Hein? Jésus est non seulement notre ville refuge vers laquelle nous pouvons fuir pour nous échapper de l'enfer, mais il est aussi celui qui, par sa mort, a effacé tous Entendons-le bien. Tout ce qui nous condamnait. Amen. Toutes les ordonnances ont été détruites. Amen. Amen. Il n'y a pas un petit papier qui traîne. Vous savez, quand vous passez devant la justice, parfois, quand vous avez fait quelque chose, il y a toujours un petit papier qui traîne, au cas où, ou pour vous rappeler. Là, Jésus a détruit. Waouh! Il a détruit l'acte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous sommes désormais justifiés, non à cause de nos œuvres, de nos excuses, d'un bon argumentaire, parce qu'on a eu un bon avocat, même si notre avocat c'est Christ, mais nous sommes déclarés justes. Waouh! Et nous avons reçu un vêtement blanc par la mort du Fils de Dieu, grâce au sang de l'agneau, qui ôte de manière définitive le péché du monde. Waouh, Seigneur. S'il y a quelques versets que j'ai appris par cœur, j'espère que vous le faites, celui-là en fait partie. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Tourne-toi ce matin vers ton frère ou ta sœur et dis-lui, Jésus est mort, il t'a déclaré juste. Dis-lui, Jésus est mort, il n'y a plus aucune condamnation contre toi. Dites-vous-le. Je sais que on est un peu mal à l'aise avec ça, mais c'est important. Et dites-lui aussi, Jésus est mort, je ne te condamne pas non plus et je ne te juge pas non plus. Amen. Parce que Jésus est mort et qu'il a détruit l'acte de condamnation. On va prier à la fin aussi pour ceux qui vivent encore sous la culpabilité. On n'est pas appelé à vivre sous la culpabilité, d'accord? On est appelé à vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Troisième point, les prêtres, il me reste une minute, les Lévites habitent au milieu des villes refuges. Nous voilà donc arrivés à la fin du chapitre 20 et au chapitre 21 où on découvre que les Lévites ont été placés par Dieu au milieu des villes. Les Lévites, c'était ces prêtres qui étaient chargés du service du temple et des sacrifices. Eux, ils n'avaient pas eu en partage un morceau de territoire, mais ils ont été placés au milieu des autres tribus et en particulier dans les villes refuges. Alors pourquoi est-ce que Dieu place les Lévites au milieu de ces villes-là? C'est une bonne question. Eh bien, déjà à cette époque-là, Dieu faisait prendre conscience à son peuple que ce sont... Qui c'est qui avait besoin de médecins? Ce sont les malades qui avaient besoin de médecins. C'est ce que Jésus dit dans Luc 5, 31-32. Jésus prenant la parole dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus est ce Lévite au milieu des pécheurs pour appeler à la repentance ceux qui désirent fuir ce monde pour se réfugier en lui. Et le Nouveau Testament nous appelle, nous l'Église, chacun d'entre nous, à faire de même. Apocalypse 1, 6, Jean nous dit, et qui a fait de qui? De nous, l'Église, un royaume des sacrificateurs. Nous sommes les Lévites de la Nouvelle Alliance pour Dieu son Père. Le texte de ce matin nous rappelle que Dieu nous a permis de fuir, il nous a spirituellement arrachés au royaume des ténèbres, arrachés au péché, et il nous a transportés dans son propre royaume. Mais ce texte nous rappelle aussi la prière de Jésus à Gethsémané. Qu'est-ce qu'il a prié Jésus à Gethsémané? Seigneur, je vais partir et je vais prendre avec moi tous ceux que tu m'as donnés. Ah mais non, il n'a pas prié ça. On peut lire. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je crois qu'à un certain moment dans ma vie, j'en ai voulu à Jésus d'avoir prié ça. Et pourtant, c'est lui qui a raison. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc ce n'est pas seulement pour les 12, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Jésus a prié pour moi, cette prière-là, par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pourquoi? C'est quoi la finalité de ça? Pour que le monde croit. Amen. Pour que le monde croit. Dieu a placé les Lévites au milieu des villes refuges. Henri nous a témoigné, il est allé vendredi au milieu des prostituées. Cet après-midi, il y a une sortie au Brada. D'accord ? Au milieu de ceux qui ne connaissent pas forcément encore le Seigneur. Rappelons-nous que c'est exactement là que Dieu veut son Église. Au milieu des pécheurs. Amen. Dieu veut son Église au milieu des pécheurs. Dans les villes refuges qui accueillent celui qui fuit parce qu'il a péché. Dieu nous rappelle ce matin que nous sommes la lumière du monde et que nous devons croire 1 Jean 4:4. Parfois, et ça c'est un autre verset que je vous invite à apprendre par cœur. Il faut croire 1 Jean 4:4. Facile à retenir. Hein. T'as un 4:4, Jean? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on est persuadé de ça? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut son Église au milieu des pécheurs. Tu es la lumière du monde. Ni plus, ni moins. Dernier point. Le repos. Fin du chapitre 21, le repos. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme ils l'avaient juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Donc je voudrais terminer ce matin en parlant du repos. L'Éternel leur accorda le repos. Nombreuses sont les batailles auxquelles Israël a dû faire face, et nombreuses sont les batailles auxquelles nous devons faire face dans toute une vie. Et la bonne nouvelle, c'est que au milieu de ces batailles, Dieu nous donne du repos. Israël ne s'est pas arrêté de se battre à la fin de Josué 21. Je pense qu'ils auraient bien aimé. Mais non, nombreuses sont encore les luttes, à la fois internes au peuple, à la fois avec les autres nations qui les attendent. Mais au milieu de tout ça, Dieu leur accorde du repos. C'est exactement la même chose pour nous. Ô combien on aimerait pouvoir dire à quelqu'un qui vient de passer par une grande épreuve que ça y est, c'était la dernière. Il n'aura plus de choses difficiles à affronter, qu'il a assez souffert et que plus rien ne viendra contre lui. On aimerait bien dire ça, hein? Mais cela n'arrivera qu'au retour de notre bien-aimé Seigneur. Il va falloir être encore patient. En attendant cet événement merveilleux, Dieu nous accorde du repos au milieu de nos batailles. Dans Matthieu 11, Jésus nous dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est notre ville refuge et c'est l'endroit où nous pouvons trouver du repos. On peut se sentir fatigué, fatigué à cause du travail qu'on a accompli ou qu'on accomplit chaque jour dans divers domaines, à l'école, au travail, à la maison, à l'église, peu importe où. On peut être fatigué à cause des luttes contre les accidents de la vie ou une maladie. On peut être fatigué à cause des batailles contre le péché qui ne cesse de nous attirer. Et on peut être chargé, chargé à cause de la pression mentale face à toutes les obligations de la vie. Vous savez, tout ce à quoi on doit penser chaque jour. On peut être chargé à cause d'un sentiment de culpabilité ou de condamnation face à notre péché. On peut être chargé à cause de notre responsabilité en tant que parent, en tant qu'ami ou en tant que responsable dans l'église ou dans son entreprise. Il y aurait plein d'autres choses qui pourraient nous charger. Mais dans tout ça, Jésus veut nous accorder du repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus veut nous conduire dans ce lieu où je peux me sentir en sécurité, recevoir sa paix et me reposer afin de recharger mes batteries pour repartir. Jésus est celui en qui j'ai accès à toute la provision de Dieu pour ma vie. Il est celui en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. On a lu à la fin du chapitre 21, toutes les paroles, les promesses de Dieu, elles étaient quoi? Accomplies. En Christ, toutes les promesses que Dieu fait, nous y avons droit et accès. Amen. Et c'est pour ça que Paul, à la fin, on terminera avec ça, du chapitre 8 de Romains, il va dire: Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ah, ça c'est un verset de repos. D'accord? Il a donné Jésus. Et donc il va me donner ce dont j'ai besoin. Est-ce que vous êtes d'accord de nous accorder 5 minutes ou juste pour prendre du temps pour prier pour ces sujets? Prier pour ceux qui ont besoin de fuir et de se réfugier en Jésus. S'il y a des choses avec lesquelles tu continues de te battre et dont tu veux te débarrasser, ben, je veux t'inviter ce matin à venir et on va prendre un temps de prière pour cela. Pour ceux qui vivent avec un sentiment de culpabilité fort, Dieu ne veut pas cela. Il veut que tu comprennes et vives que l'acte qui avait été rédigé contre toi, eh bien, il est pas seulement déchiré, il est détruit. D'accord? Déchiré, brûlé, il n'y a plus rien. Priez pour ceux qui veulent répondre à cet appel que Jésus nous lance à chacun de nous. Sois au milieu des pécheurs. Sois le Lévite au milieu des villes refuges. Et enfin, ceux qui sont fatigués et chargés et qui ont particulièrement besoin en ce moment de trouver le repos. Fuir, sentiment de culpabilité, vivre au milieu des pécheurs et se reposer. Avançons. Hop, il y a de l'eau. On peut s'avancer simplement pour recevoir la prière et on va prier les uns pour les autres. On n'a pas beaucoup de temps, alors si vous voulez recevoir la prière, venez maintenant.